Mourad Boufala. On enchaîne par son interview, présentée par Ikram et Mathilde.
Mazi et je suis accompagnée de Mathilde Billet. Nous sommes toutes les deux étudiantes en deuxième année LEA espagnol et anglais. Et donc nous allons nous entretenir avec Monsieur Boufala. Donc merci d'être présent. Nous sommes très contents de faire cet entretien. Et du coup, nous allons sans plus tarder commencer. Donc je laisse ma camarade poser la première question.
Donc vous êtes actuellement enseignant et chercheur à l'IAE de Tours. Est-ce que vous pouvez nous décrire premièrement votre parcours scolaire?
Alors, bonjour à tout le monde. Je me présente tout d'abord. Donc, je m'appelle Mourad Boufala, enseignant-chercheur à l'Université de Tours et spécialement à l'Institut d'administration des entreprises de Tours-Val-des-Loires. Merci pour votre invitation à cet échange autour de notre atelier sur les Serious Games et la simulation d'entreprise. Donc c'est un réel plaisir d'échanger. Alors moi j'ai passé par un parcours dit classique, donc avec un doctorat en GRH et en travaillant sur un sujet qui est très passionnant sur la gamification, qui est le fait d'installer les mécanismes de jeu dans un contexte non sérieux, comment ça impacte l'attitude d'apprendre des collaborateurs dans le cadre de la formation professionnelle en entreprise. Est-ce qu'il y a un lien ? Donc après un parcours jusqu'au doctorat, donc j'ai travaillé en parallèle en tant que formateur en système d'information dans des sujets de lido-pédagogie et formateur en système d'information. Et là, je mène ma carrière en tant qu'enseignant chercheur complètement. Donc c'est un métier qui me passionne et on souhaite tous faire ce qu'on aime.
D'accord. Et du coup, vous avez eu plusieurs expériences en tant que consultant en implémentation de systèmes d'information. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste, parce que ça peut paraître un peu flou, en quoi ça consiste et ce que vous avez tiré de bon ou de mauvais à la suite de vos différentes expériences ?
Alors, moi, j'avais une grande casquette qui est plutôt une double casquette. C'est d'être à l'écoute d'un client qui est très exigeant et qui demande à chaque fois plusieurs propositions de solutions logicielles en système d'information et à la fois une casquette vis-à-vis du développeur. Donc il faut que notre réponse, notre proposition répond au mieux aux besoins de la clientèle. En système d'information, donc il faut actualiser, il faut mettre en forme l'expression besoin du client en système d'information dans le sens où que ça soit le plus compréhensible, le plus clair possible pour le développeur, pour l'équipe technique qui va mettre en place cette solution là. Donc, ce que j'ai appris durant mon expérience, c'est qu'il faut être vraiment très clair de ce qu'on propose, de ce qu'on écrit. Là, j'ai développé ma capacité de rédaction. Également donc l'esprit d'équipe, donc de participer à des réunions diverses et variées, de se déplacer vis-à-vis de la clientèle, d'être à l'écoute. Il peut faire des marches arrière à n'importe quel moment. Aussi donc l'équipe technique qui essaie, elle aussi a ses attentes, ses exigences. Donc il y a cette force de proposition que j'ai développée durant ma petite carrière en tant que formateur en système d'information.
Super. Comme on a pu voir lors de l'atelier, vous travaillez dans la ludopédagogie, une méthode utilisée dans la formation professionnelle pour enseigner de façon ludique à travers des jeux. Alors pourquoi, selon vous, la ludopédagogie est importante aujourd'hui dans le monde du travail et pourquoi vous avez personnellement choisi cette voie pour le futur ?
Alors, avant d'être enseignant, donc je suis un gamer. Donc je suis un expert soi-disant dans les jeux. Donc je jouais depuis que j'étais gamin et jusqu'à aujourd'hui, même si j'ai un métier à côté. Donc j'essaie. Donc ça m'a inspiré donc de voir le lien. Je voyais des formateurs qui utilisent des jeux de cartes, des jeux de société, des jeux virtuels, etc. pour susciter la motivation à apprendre chez les apprenants, chez les participants. Et c'était l'un des motivations de faire une thèse. Et donc, à titre personnel, donc, j'ai choisi la ludopédagogie donc, pour, en raison de son potentiel à dépasser les barrières traditionnelles en termes de formation. Et donc, en tant que méthode dynamique et innovante, donc, il permet donc, de créer des expériences d'apprentissage qui sont motivantes, mémorables. Et donc, c'est une approche qui me passionne, car donc, il offre une manière captivante, efficace, et, afin d'acquérir les connaissances attendues, que ce soit pour les étudiants et aussi pour les professionnels.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que dans le futur, cette méthode de pédagogie va devenir nécessaire afin d'assurer une bonne harmonie dans une entreprise ?
Alors, elle est nécessaire dès aujourd'hui, hein, mais je reste persuadé que la ludopédagogie sera essentielle pour garantir une bonne harmonie au sein du monde des affaires, au sein des entreprises dans le futur. Donc, et il favorise au mieux donc, l'engagement, la créativité et surtout la collaboration qui va contribuer à un environnement de travail qui est productif et épanouissant.
D'accord. Et donc, en plus d'être enseignant, vous avez spécifié que vous êtes chercheur sur l'innovation au travail et donc la ludopédagogie. Est-ce que, quels sont les problèmes persistants sur l'apprentissage en entreprise ?
Alors, en tant que chercheur, donc, comme tout chercheur, il y a des thématiques de recherche où nous sommes spécialistes. Donc, moi, en tant que chercheur, donc, je me concentre sur les pratiques gamifiées, les pratiques inspirées par cette ludopédagogie, ludification, et comment ça impacte l'attitude d'apprendre chez les collaborateurs. Et donc, il y a plusieurs constats à ce niveau-là. Donc, il y a le manque d'engagement chez les employés. Il y a le déficit d'adaptabilité, c'est ça. Le fait que les pratiques de formation inspirées par les jeux ne sont pas adaptées au contexte d'entreprise, au profil des participants. Donc, il y a des formateurs qui veulent installer des jeux alors qu'ils ne savent même pas quel est le profil en face, quel est l'objectif de la formation, le contenu. Donc il y a le contenu, il y a aussi le contenant qui est le formateur. Donc il faut combiner les deux pour arriver à l'objectif final de la formation. Et puis il y a il y a aussi le manque de personnalisation, l'évaluation qui doit être efficace. Aujourd'hui, on estime qu'elle est inefficace et les méthodes utilisées ne mesurent pas d'une manière adéquate la compréhension réelle des sujets traités par les employés. Donc, ce qui affecte en effet la qualité de l'apprentissage.
Ok. Et du coup, comme on l'a dit, le fait que les entreprises ils commencent à accorder une place importante au serious game et à la gamification, donc est-ce que cela reflète un monde professionnel inefficace, un monde actuel professionnel inefficace?
Alors, je dirais non, nécessairement. Le recours progressif et croissant aux serious games dans le monde professionnel donc ne reflète pas et ne va pas refléter une inefficacité, mais plutôt une adaptation aux nouvelles approches d'apprentissage, aux nouvelles technologies d'information qui existent désormais. Donc, les serious games ou les jeux sérieux sont utilisés pour rendre les formations plus engageantes, plus interactives et efficaces. Et cela témoigne pour nous tous, pour toutes les parties prenantes, une volonté d'améliorer l'efficacité de la formation en général, en tirant profit des technologies et des méthodes d'apprentissage innovantes existantes à l'heure d'aujourd'hui.
Pour continuer, est-ce que vous pensez que les jeunes devraient inclure la ludopédagogie comme critère avant de postuler dans une entreprise, pardon ?
Alors c'est pas un critère, c'est une manière d'apprendre, d'accord ? Dans l'inclure dans un CV, on peut l'intégrer dans les compétences personnelles, mais de l'inclure dans un CV, il faut peut-être la développer lors de l'interview, lors de l'entretien avec le recruteur.
Oh, désolé, c'était plus dans le sens où ils doivent considérer le fait que l'entreprise met en place la ludopédagogie comme façon d'apprendre. Et est-ce que c'est un critère qu'ils doivent considérer dans une entreprise vers laquelle ils veulent aller ?
Alors, vous m'arrêtez si je me trompe. Donc, le fait que l'entreprise mène des formations gamifiées, des formations inspirées par le jeu, peut être une qualité pour elle, un élément distinctif qui valorise sa marque employeur.
Oui,
c'est certainement pour le candidat. Donc une entreprise qui propose des formations diverses et variées, c'est un élément qui va lui permettre de se distinguer des autres entreprises. Oui, pourquoi pas.
Super.
D'accord. Et comment faire ses premiers pas dans la ludopédagogie, donc pour certaines entreprises, parce qu'il y en a qui sont craintifs par rapport à ça, notamment par plusieurs facteurs, comme la peur de perdre du temps, ou bien alors la déprofessionnalisation, ou tout simplement la peur du changement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ces entreprises qui souhaiteraient se lancer, mais qui sont encore un peu hésitantes ?
Alors, on constate tout le temps, que ce soit pour les entreprises, pour les formateurs et même pour les participants, des réticences suite à l'utilisation de ces pratiques-là. Donc il faut commencer étape par des petites expérimentations. D'accord ? Il faut faire des formations à 10, 20 maximum de participants et voir comment ça se produit, comment ça fonctionne, est-ce que ça apporte des résultats. Identifier les besoins concrets de formation avant de mener quoi que ce soit. Donc, quel est le besoin à l'issue de cette formation ? Est-ce que utiliser des jeux de cartes, des jeux virtuels ou quoi que ce soit ? Il faut identifier, définir le besoin au mieux. Est-ce que cela va apporter quelque chose ? Et puis, sensibiliser progressivement que les pratiques gamifiées ont une utilité, apportent de la valeur ajoutée pour l'entreprise. Et puis, par la suite, on va passer à l'autre étape qui est de mesurer l'efficacité. On va mesurer est-ce que cette utilisation a apporté quelque chose et soyez transparent sur les objectifs de votre formation et l'utilité de ces pratiques-là. Donc, en résumé, voici les premiers pas pour les débutants en termes de ludopédagogie.
J'avais une question, une remarque aussi peut-être. Il y a un peu plus d'un an, Arte a diffusé une série télé basée sur des faits s'étant produits dans une grande entreprise, puis ça s'est passé à France Télévisions, qui avait fait appel justement à la ludopédagogie pour, en sein de l'entreprise, je ne sais pas quels étaient les objectifs, mais en tout cas, ils avaient fait appel à ce genre de serious game. Et dans la série d'Arte, le jeu devient hors de contrôle. Le jeu a pour objet de mettre en compétition plusieurs candidats pour un poste de DRH au sein d'une entreprise. Et un des salariés, en l'occurrence dans la série, c'était interprété par Eric Cantona, un des salariés devenait littéralement hors de contrôle, pétait les plombs, prenant le jeu bien plus qu'au sérieux et essayant d'éliminer le reste des gamers. Est-ce que ça n'a pas aussi des limites ? Quelles sont les limites qu'on fixe pour éviter justement que le jeu prenne le pas sur l'entreprise et qu'on ne sache plus où situe la frontière entre ce qui relève de l'entreprise, ce qui relève des missions du salarié et ce qui va relever du jeu ?
Alors, le jeu employé en général dans une formation professionnelle a des objectifs, d'accord ? qui s'adapte au profil des répondants, des participants, et un contenu à respecter, et un deadline à respecter, etc. Des fois, ça déborde pour certains participants qui ne sont pas à l'aise avec la méthode, qui sont pas à l'aise avec certaines personnes qui sont pas à l'aise avec la technologie d'information, avec utiliser un écran, de jouer avec un autre en groupe, et cela, donc ça reflète la qualité du formateur. Donc c'est à lui de s'adapter au profil en face, d'accord. Il peut l'écarter, il peut l'expliquer les règles et proposer et prévoir un plan B, un plan secours au cas où les règles ne sont pas respectées, et de proposer une autre solution pour le participant qui n'a pas respecté les règles du jeu.
Alors moi, j'ai aussi une question pour vous. Dans le cadre de quand une entreprise fait appel à vos services, qui joue avec qui ? Parce qu'en fait, on peut supposer qu'il y a quand même, dans beaucoup d'entreprises, il y a un certain rapport hiérarchique. Du coup, c'est peut-être difficile de faire jouer un chef de service avec un salarié. Peut-être que, d'ailleurs, souvent les chefs de service qui vont mal le vivre. Du coup, comment on travaille avec ces choses-là, surtout si l'entreprise veut avancer dans ces rapports-là ?
Alors, généralement, on ne fonctionne pas par niveau hiérarchique. On part plutôt par style de personnalité. On peut mélanger un responsable avec un salarié juste parce qu'ils ont à peu près le même style de personnalité. Ça pourrait renforcer la collaboration entre eux, leur lien. On peut différencier, séparer les participants selon plusieurs critères. Donc c'est à le formateur de voir quelle est la méthode la plus adéquate et la plus faisable possible dans sa formation. Il y a plusieurs critères. On peut distinguer ces participants selon quatre styles, les leaders, les suiveurs ou autres, qui sont réservés, qui sont réticents face à ces pratiques-là. Il y en a qui sont neutres. Donc, on peut les distinguer selon plusieurs catégories.
Mais comment dire ? Est-ce qu'on peut refuser de mettre en place un jeu dans une entreprise justement parce qu'il y a, trop de conflits ? De dire, tiens, là, peut-être que l'entreprise essaie d'utiliser une prestation de jeu pour mettre des conflits sous le tapis. Donc en fait, que ça va être, un pansement sur une plaie infectée. Est-ce que c'est possible ?
Alors, comme j'ai dit au début de mon intervention, donc il y a le contenu et le contenant. D'accord ? Il y a le contenu de la formation et le formateur. D'accord ? Donc ces pratiques-là, inspirées par les technologies, viennent pour aider, pour compléter le rôle initial du formateur. Donc c'est le formateur de s'adapter. Est-ce que le fait d'utiliser des jeux dans ma formation, est-ce que ça va m'aider ? D'accord ? S'il estime que tel ou tel type de jeu ne va pas correspondre au profil des apprenants et ça va engendrer des problématiques, on les évite et on voit autre chose. D'accord ? Donc, c'est ma vision des choses, en tout cas en tant que ludopédagogue.
Enfin, pour finir, on a une dernière question à vous poser. Donc, puisque la ludopédagogie se développe en entreprise, pourquoi ne pas la commencer dès les études supérieures, voire le secondaire ? Parce que, en tant qu'étudiante, on sait qu'on a beaucoup de cours théoriques, et donc on n'apprend pas par passion, mais plutôt par obligation, parce qu'à la fin, il y a une notation. Du coup, c'est ma question.
Alors oui, certainement, c'est une question pertinente, je trouve. Moi, dans mes interventions, dans mes cours, donc, j'essaie de les utiliser au maximum. C'est une valeur ajoutée pour les étudiants, de les faire apprendre à travers une expérience ludique, qui est innovante, intéressante, et le fait de l'utiliser pendant leur cursus universitaire est une idée intéressante, et j'incite les enseignants, les intervenants universitaires ou professionnels à les utiliser en fonction, bien évidemment, de la matière.
D'accord, merci.
Ouais, super. Donc, on pourrait conclure dans ce cas que la ludopédagogie, elle est importante dans le monde d'aujourd'hui et qu'il y a quand même un besoin d'améliorer et de se développer dans, au niveau des formations qui sont vraiment adaptées au contenu et aux personnes présentes, mais qu'elle permet quand même de représenter concrètement les choses et de permettre une harmonie un peu plus dans le monde de l'entreprise. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir répondu à nos questions. Et bon, on laisse la parole au prochain.